Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, bienvenue dans Accent. Et nous prenons tout de suite la direction de la Méditerranée. Depuis 3 semaines déjà, notre correspondante en Italie, Mathilde Auvillain, se trouve à bord de l'Aquarius. C'est le bateau affrété par l'organisation civile SOS Méditerranée en partenariat avec MSF pour venir en aide aux migrants qui tentent la traversée. Une aide carrément vitale. Les derniers bilans catastrophiques du HCR portent à 4000 le nombre de personnes qui se sont noyées depuis le début de l'année. 110 morts encore rien que mercredi dernier. Alors vous avez pu suivre le premier journal de bord de Mathilde vendredi dernier. Écoutez ce qu'elle a pu vivre ces derniers jours en tant que volontaire sur une mer déchaînée.
Cette semaine, les membres de l'équipe de sauvetage SOS Méditerranée ont passé de longues heures à scruter l'horizon à travers leurs jumelles. Il n'était pas facile de garder l'équilibre alors que le bateau tanguait sur une mer déchaînée avec des vagues dépassant les 2 à 3 mètres. Et dans les nuits sans lune, les seules lueurs à l'horizon sont celles des torches des plateformes pétrolières offshore. Celle-ci est italienne, me dit-on sur la passerelle. L'actuel commandant de l'Aquarius s'y connaît, il est polonais et habituellement il travaille plutôt en mer du Nord sur des navires de prospection pétrolière. Mais avec la chute des prix du pétrole, son bateau est à l'arrêt. De la prospection pétrolière au sauvetage des migrants, contraste total et aussi lourd de sens. En début de semaine, l'Aquarius était le seul bateau présent dans la zone de sauvetage à l'ouest de Tripoli parce que les autres bateaux humanitaires ont dû rester au port à cause de la tempête. Les conditions météorologiques à l'approche de l'hiver rendent en effet les traversées plus périlleuses et donc plus rares. Les passeurs qui poussent les migrants dans les zodiaques ont certes peu de respect pour la vie humaine, mais les migrants, eux, savent que la traversée est dangereuse. Ils savent que l'on meurt en mer et il est plus difficile qu'ils montent dans un canot alors que la mer est déchaînée. Et justement, la voix de Yannick, ce jeune Camerounais de 21 ans, secouru par l'Aquarius le 16 octobre, résonne encore dans mes oreilles. Au lendemain du sauvetage, assis sur sa couverture grise sur le pont arrière de l'Aquarius, il racontait volontiers son parcours.
J'étais prêt à acheter un visa, mais tu ne peux pas trouver. La seule issue pour entrer en Europe, pour nous, s'il y a 100 Camerounais qui sont en Europe, il y a peut-être 10 seulement qui ont un bon visa. Et parmi ces 10, les enfants des grands, comme on dit chez nous. Et nous, le reste, nous sommes obligés de passer par ici. On sait que les gens meurent dans l'eau. On regarde, au Cameroun, il y a la télévision française, France 24, RFI aussi, tu peux beaucoup. France 24 parle des migrants, des clandestins tout le temps, comment ils sont entrés, comment les gens sont morts. Mais dans ta tête, tu dois croire au destin. Moi, je suis traumatisé.
Tous, sans exception, arrivent en état de choc sur l'Aquarius. Accueillis par les volontaires de SOS Méditerranée et de Médecins Sans Frontières qui leur souhaitent la bienvenue, ils se sentent enfin en sécurité pour la première fois depuis longtemps.
Vous donnez pour les hommes dedans, ok ? Allez, calmement, doucement.
Ce n'est pas tant la traversée qui les traumatise que les semaines, voire les mois qu'ils ont passés entre les mains des trafiquants d'êtres humains en Libye.
Je suis arrivé en Libye, à Tripoli, dans un coffre, dans la malle arrière d'une voiture. Je suis arrivé dans la malle arrière d'une voiture. Ils sont au courant qu'on va te questionner. Que tu sors d'où, qu'est-ce que tu as fait. Donc tu ne dois pas dire, on te masque. On est dans des voitures, on nous couvre toujours. Vous imaginez que 2 personnes, 3 personnes entrent dans le coffre d'une voiture, 3 personnes. Fermé. Parce que tu ne dois pas voir où tu vas, tu ne dois pas voir lire. Parce que tu peux dire ça. On boit l'eau salée. L'eau salée, l'eau de mer qu'on boit, c'est trop pénible. Tu vas t'habituer à boire ça, comment? On mange comme des chiens. C'est pas la blague. Parce que au Cameroun, on a des animaux domestiques. Comme tu les sais, c'est comme ça qu'on nous sert. On mange 8, deux fois 10, on nous sert un plat, on mange avec les mains. On mange par les macaronis, spaghettis, on ne peut pas sans huile. Vous imaginez même pas, Tu te demandes comment quelqu'un peut avoir ce genre de cœur. Parce que c'est de ça qu'ils vivent. Ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas de président. En Libye, ça fait 6 ans. Ils vivent de quoi? Ils vivent de des clandestins. C'est nous sommes des nègres.
Yannick est désormais en Italie. Qui sait ce que lui réservera l'avenir en Europe? Pour lui, comme pour ses camarades d'infortune, une chose est sûre, ça ne pourra jamais être pire que ce qu'ils ont subi en Libye. Troisième semaine en mer, et ces derniers jours pas de sauvetage, l'Aquarius doit maintenant rentrer quelques jours au port de Catane pour un réapprovisionnement et un changement d'équipage. Mais il faut faire vite, le beau temps est revenu et de nouvelles vies sont en danger en Méditerranée.
Et vous pourrez retrouver sur notre site et Facebook le premier épisode de ce carnet de bord de Mathilde Auvillain. La Croatie est encore le seul pays européen à punir exclusivement les travailleurs du sexe. Il faut dire que la loi sur les troubles à la paix et à l'ordre public date de près de 40 ans. Magistrats et militants tirent la sonnette d'alarme car un nouveau projet de loi est à l'étude. Mais il introduit aussi des peines encore plus lourdes pour les prostituées. Précision Simon Rico.
Zagreb fait figure de mauvais élève en matière de lutte contre la prostitution. Il faut dire que la loi sur les troubles à la paix et à l'ordre public, qui encadre le délit de prostitution, date de 1977 et les amendes prévues sont encore libellées en marque allemand. Ce texte prévoit même des peines de prison pouvant aller jusqu'à 30 jours d'incarcération. Après l'échec d'un projet de réforme en 2012, un nouveau texte de loi est aujourd'hui à l'étude, mais sa première mouture a été retoquée par les députés croates avant l'été. L'objectif est de s'aligner sur les standards en cours dans le reste de l'UE en prévoyant des sanctions contre les clients comme vient de le faire la France malgré les polémiques. Mais en fait, ce nouveau texte entend surtout alourdir la répression contre les prostituées avec des amendes pouvant atteindre 930 euros et une peine de prison maximale allongée à 40 jours. Si les études montrent que c'est le plus souvent à cause de la fragilité de leur situation sociale que ces hommes et ces femmes en arrivent à faire commerce de leur corps, la législation croate persiste à considérer les prostituées comme des criminels avant tout et non comme des personnes socialement fragiles. Pour le moment, les travailleurs du sexe font l'objet d'une véritable chasse aux sorcières de la part de la police. La magistrate Branka Gigante raconte qu'une jeune femme de 23 ans aurait par exemple été déférée devant la justice 243 fois. Selon les estimations, il y aurait environ 7000 travailleurs du sexe en Croatie et 100 000 clients. Aucun gouvernement croate n'a jamais lancé la moindre étude ou recherche sur le travail sexuel, preuve que les pouvoirs publics ne voient toujours pas d'autre solution que la répression pour lutter contre ce phénomène de société.
C'est un fait peu connu dans plusieurs Länder. Il n'est pas obligatoire d'avoir la nationalité allemande pour devenir policier. Contrairement à la France, par exemple, qui n'accepte que des Français ou des binationaux dans les rangs de la police. En Bavière, les forces de l'ordre ont même lancé une campagne pour recruter encore plus d'étrangers dans leurs rangs. Et à Munich, Pauline Curtet a rencontré plusieurs de ces officiers qui ont passé le cap.
Avec son uniforme beige et vert, son pistolet à la ceinture et, petite fantaisie, un pins au col de sa chemise célébrant la fête de la bière de Munich, Giuseppe Lapomarda a tout du policier bavarois ordinaire. Pourtant, le nom de ce trentenaire le trahit bien vite, il est italien. Né en Allemagne de parents originaires du sud de l'Italie, il n'a jamais voulu changer de nationalité, ce qui ne l'a pas empêché de devenir policier dans son pays d'adoption. Pour lui, une opportunité incroyable.
J'ai toujours été intéressé par la police, parce que depuis tout petit, j'aime l'ordre. Mais si on m'avait dit il y a une dizaine d'années que j'allais quitter mon travail dans la fabrication de machines pour devenir policier en Bavière, je n'y aurais sûrement pas cru. Mais quand j'ai entendu parler, par hasard, de cette possibilité, j'ai démissionné de mon ancien travail sans hésiter. Heureusement que ça a fonctionné.
Cela fait maintenant 8 ans que l'officier Lapomarda a revêtu l'uniforme bavarois. Tout comme les collègues allemands de son unité, il effectue les missions classiques du policier en uniforme, maintien de la paix, contrôle sur les routes. S'il ne pense pas tous les jours à son statut un peu particulier au sein de la police, il admet quand même que sa nationalité le différencie parfois.
Disons que c'est parfois un peu difficile pour moi, en tant qu'étranger, avec la langue par exemple. Je dois écrire beaucoup de rapports en allemand. Il faut bien faire attention à ne pas faire de fautes de grammaire. Et même si je suis né ici, c'est parfois compliqué. Mais d'un autre côté, je me suis souvent trouvé dans des situations avec des Italiens où je sentais qu'ils étaient plus en confiance grâce à ma présence. C'est important parce que Munich est très proche de l'Italie.
La police bavaroise autorise les étrangers à postuler pour rejoindre ses rangs depuis 1993. Un peu moins de 200 personnes ont ainsi été recrutées. Plusieurs d'entre elles ont entre-temps pris la nationalité allemande. Ce n'est pas le cas de Sarah Kaoba. Cette policière de 45 ans chargée d'enquêter sur les fraudes à Munich est née en Allemagne, mais elle est croate. Pour elle, le vrai avantage d'être étrangère, c'est de parler une autre langue que l'allemand.
Physiquement, je pourrais être allemande. On ne se rend pas compte que je suis étrangère. Alors il est parfois arrivé que nous arrêtions des suspects et qu'ils m'insultent en croate. Généralement, je les laisse parler, puis quand ils ont fini, je leur dis en croate « Merci pour l'insulte, vous en avez d'autres ?»
Les cas de Giuseppe Lapomarda et Sarah Kaoba l'illustrent bien. Les policiers étrangers de Bavière sont recrutés en fonction des vagues d'immigration qui ont touché la région. Beaucoup d'entre eux sont donc croates, italiens, mais aussi turcs, grecs ou roumains. En tout, 19 nationalités différentes. Au ministère de l'Intérieur bavarois, Simone Lang est chargée de recruter ces policiers un peu spéciaux. Il n'y a pas de véritable quota, cela se fait au cas par cas. Elle souligne bien qu'ils doivent satisfaire aux mêmes conditions que les autres postulants, être en bonne santé, parler et écrire l'allemand impeccablement, être dans la limite d'âge, etc. Seule exception donc, leur absence de nationalité allemande. D'après elle, une bien petite concession en comparaison de ce que peuvent apporter ces policiers à la Bavière.
La police bavaroise, comme toute autre police, doit avoir des compétences interculturelles. Ces officiers nous aident à faire cela. Ils viennent d'une autre culture, ils parlent la langue de leur pays, ils comprennent mieux la mentalité des gens. C'est un lien précieux entre la population et nous. Prenez le cas par exemple où des Turcs organisent une manifestation à Munich. Nous enverrons au moins un policier turc pour l'encadrer parce qu'il pourra mieux communiquer avec eux et peut parfois aider à calmer la situation.
En mai dernier, le ministre de l'Intérieur bavarois a annoncé vouloir recruter encore plus de policiers de nationalité étrangère. Il n'a pas précisé quelle nationalité était particulièrement concernée, mais beaucoup ont vite pensé aux Syriens, puisque de nombreux réfugiés originaires de Syrie sont arrivés dans la région. Simone Lang préfère ne pas trop spéculer.
Pour le moment, nous ne comptons pas de policiers syriens dans nos rangs, mais peut-être que cela va changer. Nous observons la situation. Après tout, beaucoup de réfugiés par le passé sont venus d'ex-Yougoslavie et nous avons recruté des policiers originaires de cette région. Cela peut forcément nous aider.
Reste parfois que les différences culturelles persistent entre policiers allemands et étrangers. Même des différences qu'on pourrait penser anecdotiques. Prenez Giuseppe Lapomarda. Il n'hésite pas une seconde lorsqu'il doit choisir son camp lors d'un match de foot entre l'Allemagne et l'Italie.
Je n'hésite pas une seconde. Pour moi, c'est l'Italie.
Et tant pis s'il doit parfois suivre ses matchs à Munich, entouré de collègues allemands. C'est pour lui le prix à payer pour faire le métier de ses rêves.
Quand le foot se heurte à la politique, le champion du monde et défenseur du FC Barcelone, Gérard Piqué, en a fait les frais récemment, au point de penser sérieusement à arrêter sa carrière, sifflé régulièrement par les Espagnols en raison de ses prises de position sur l'indépendance de la Catalogne. Il est aussi harcelé sur les réseaux sociaux. François Musso nous appelle de Madrid.
Tout a commencé par une anecdote, presque une affaire de cours de récréation. Peu avant un match avec la Selección, c'est-à-dire l'équipe espagnole de football, le défenseur Gérard Piqué décide de raccourcir les manches du maillot car elles le gênaient. Or, sur ces manches, il y avait l'emblème et l'écusson de l'équipe nationale. Ce détail s'est répandu dans les réseaux sociaux, mais avec une très mauvaise intention. À savoir que si Gérard Piqué avait coupé les manches, c'est parce qu'il ne supporte pas les couleurs nationales et parce qu'il déteste l'Espagne dont il veut se séparer. Le joueur a eu beau nier en bloc l'accusation, la rumeur a enflé sur la toile à une vitesse grand V. Et son effet a été si toxique pour Gérard Piqué qu'au bout de quelques jours, il a décidé de ne plus jouer pour les couleurs espagnoles après le Mondial de 2018 en Russie. La polémique a depuis enflé, ses coéquipiers espagnols, ceux aussi du FC Barcelone, la fédération, la presse, même celle qui soutient le Real Madrid, le grand adversaire du Barça, tous ont supplié Piqué, un des meilleurs défenseurs du monde, de revenir sur sa décision. Mais rien n'y a fait. Le joueur maintient son choix. À ses yeux, il n'a cédé à aucune pression d'aucune institution, mais il a cédé, oui, je cite, au venin des réseaux sociaux. Si, dit-il, il y a tant de gens anonymes et lâches qui doutent de mes efforts lorsque je joue pour l'Espagne, alors cela me dégoûte et me décourage et je préfère renoncer à jamais. Moralité de l'histoire, commente-t-on dans les médias, les réseaux sociaux sont un poison. Gérard Piqué en a fait les frais, mais c'est un peu aussi l'histoire du pompier pyromane ou de l'arroseur arrosé. Car ce même Piqué adore semer la zizanie sur Twitter et se moquer du Real Madrid, son ennemi juré, au moindre faux pas du club entraîné par Zinedine Zidane.
Ladies and gentlemen, this next record needs no introduction.
Bonjour Vincent Teval.
Bonjour Catherine.
Alors, vous nous emmenez aujourd'hui en Russie pour écouter le spleen d'une fille et de trois garçons qui sortent leur nouvel album.
Avec des nouvelles de Motorama, ce groupe russe qu'on a découvert à ses débuts il y a 6 ans dans Accent d'Europe et qui a depuis connu un beau parcours, auréolé d'un succès surprise un peu partout en Europe. Motorama s'est formé en 2007 à Rostov-sur-le-Don, une ville située à un bon millier de kilomètres au sud de Moscou, et enregistre des chansons sous la forte influence du rock anglais de la fin des années 70, cette fameuse New Wave, romantique et mélancolique. Au fil des années, le groupe a adouci les contours de ses chansons, affiné leurs traits et soigné leurs arrangements, tout cela s'entend sur son 4e album, Dialogues, qui vient de paraître et que Motorama défend cet automne sur les routes européennes, une tournée qui fait plusieurs escales en France, notamment pour célébrer les 15 ans du label indépendant Talitre.
Et on se quitte sur le mélancolique ICU des Russes Motorama. À la réalisation d'Accent, il y avait Jérémy Besset. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants les infos.